Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Comics Weekly, le numéro 55, et c'est un épisode post-Comic-Con.
Apocalyptique.
Aussi.
Oui, en général c'est ça dans les comics. Bah alors oui, un épisode post-Comic-Con, on a pu rencontrer des fans nombreux, à peu près 150 000 je crois.
Oui, 150 000.
Selon la police.
Et ça c'était que le jeudi.
Oui, voilà, exactement. Donc, au fait, tous les gens qui sont passés par la Comic-Con sont forcément venus nous voir.
Ah ben, ils ne venaient que pour ça, d'ailleurs.
Mais bien entendu. Et donc, bah, parmi eux, on a rencontré qui ? Kinghead.
Kinghead.
Qu'on salue bien. Voilà, puis, notre fan d'Ultimate.
Entre autres. Et puis, on a aussi Pierrez, qui est passé sur notre stand.
Ouais.
Nous avons eu Chaos Storm et sa femme, qui sont passés. Nous avons eu aussi Brian. Désolé, j'ai complètement oublié le pseudo avec lequel tu commandes sur le site habituellement, donc je vais juste appeler Brian. Pour cacher la véritable identité.
Oui, et Dieu sait si c'est important dans le monde des super-héros.
Exactement.
Voilà. Bon, enfin, bah, pas mal.
Et puis d'autres auditeurs qui sont passés, enfin d'autres auditeurs et futurs auditeurs qui sont passés aussi nous faire un coucou, et c'était vraiment vraiment agréable.
Ouais, c'était cool de vous voir, et ben on espère vous revoir d'ailleurs peut-être prochainement au LCF ou l'année prochaine.
Oui, ou aussi peut-être au Paris Manga. Voilà, on verra sur OLCF, le Paris Manga, c'est encore une hypothèse, mais on verra.
Ouais.
Bon. En tout cas, on est maintenant complètement éclaté.
Oui, voilà. Oui, ça a été assez difficile le retour à la réalité, surtout 3 jours passés, 4 jours d'ailleurs, 4 jours passés dans une autre dimension, quoi, on va dire.
Ouais, c'est très difficile de récupérer ensuite la forme, surtout quand on rembauche dès le lundi. Hein,
c'est toujours plus sympathique.
Ouais, voilà. Donc là, c'est une fin de semaine molle, on va dire.
Bon. Ah ben, on va essayer de réénergiser tout ça.
Bah
ça
oui.
N'existe pas, mais...
Avec nos lectures, déjà.
Avec nos lectures, et avec... on commence, comme d'habitude, avec le numéro de la semaine.
Oui, moi, cette semaine, j'ai choisi le Iron Man numéro 55, le Iron Man volume 1. Je n'ai plus la date de sortie en tête. En tout cas, c'était écrit par Jim Starlin et Mike Friedrich. Au dessin, on avait Jim Starlin. À l'ancrage, Mike Esposito. Donc quand même des gens... relativement bien connu.
Ouais.
Et c'était tout simplement la première apparition de Drax le Destroyer et Thanos.
D'accord, ils apparaissent dans Iron Man pour la première fois.
Et oui, et ils apparaissent déjà avec ce concept de Drax qui existe uniquement pour tuer Thanos.
D'accord, donc Thanos apparaît pour la première fois. Il apparaît pas dans Captain Marvel, au fait, il apparaît dans Iron Man.
Il apparaît dans un épisode d'Iron Man.
Et ça alors, je ne savais pas.
Et donc, épisode très sympa qui pose les bases d'un conflit qui dure encore d'ailleurs.
C'était pas la saga avec Griffe Jaune ? Non, c'est plus tard.
Là, c'était vraiment un épisode où Iron Man se battait contre les Blood Brothers, qui est apparu l'épisode auparavant.
Ah oui, c'est vrai. Et qui reviennent par la suite.
Ouais.
Alors, moi, j'ai choisi le Marvel Premier. Bon, vas-y, dis-le, Steve.
Marvel Premier.
Ah bah oui, ça fonctionne mieux comme ça. Marvel Première, allez, on va le dire à la française. 55, bien évidemment, puisque c'est le numéro de la semaine, en même temps c'est plus logique. Puisque au fait, c'était la première aventure solo de Wonder Man.
Ah.
Alors en fait, Wonder Man, un vengeur bien connu. Alors je sais plus dans quel épisode des Avengers il apparaît, je crois que c'est le numéro 9, si je dis pas de bêtises.
Oula, alors là tu me poses une petite colle, parce que là, de but en blanc...
Oui. Ben écoute, on va dire ça comme ça, si vous le savez, dites-le nous. En tout cas, il a fait partie de nombreuses années de l'équipe des Avengers, il a rejoint ensuite la côte ouest,
oui.
Et là, il a eu le droit, au fait, à un petit épisode dans Marvel Premiere, donc un épisode solo, et quelques années après, il aura le droit à sa propre série, mais elle va pas durer longtemps, je crois qu'elle va durer 25 numéros. Donc là, au scénario, on retrouvait Gaspar Saladino, et Ron Wilson au dessin.
Bien, des gens que je ne connais absolument pas.
Ben non. Joe Simon, par contre, à l'ancrage.
Ouais, quand même.
Connu,
Gaspar Saladino, qu'a-t-il fait d'autre ? Je reviendrai sur Wikipédia plus tard.
Et donc là, dans cet épisode, il était face à Madame Masque et à des Dreadnoughts, si je les prononce bien. Espèce de robot, là, tu sais. Dreadnoughts.
Continue, parce que là, c'est de pire en pire, je crois.
Comment tu le dis ?
Dreadnought.
Bref, on va quitter le cours d'anglais.
Ouais. Et on va se diriger, au fait, aux États-Unis. Hein, donc, tant pis pour les cours, puisqu'on va parler des news de la semaine.
Alors, chez Image en octobre, Eric Larson, pour le numéro 177 de Savage Dragon, va ramener un grand ennemi, Oussama Ben Laden.
Alors ça, c'est pourri.
Alors oui, alors, au fait, c'est une grosse blague, parce que sur la couverture, on voit un espèce d'Oussama Ben Laden changé en monstre type Godzilla. Et au fait, dans le pitch, il est dit que, suite au fait que les Américains aient balancé son corps dans l'océan, il a reçu des radiations qui l'ont ramené à la vie, et voilà, il attaque Chicago, visiblement, hein, puisque c'est la ville de Savage Dragon. Et voilà, donc bon, c'est la grosse blague, hein. Ça va être un épisode, à mon avis, totalement déjanté et décalé, mais c'est pas trop étonnant d'Eric Larson, qui a l'habitude d'utiliser des personnages comme Barack Obama ou George W. Bush. On se souvient d'une couverture du Savage Dragon où il foutait quand même une pêche, le dragon, à George Bush.
Ouais, mais bon, là, il y avait vraiment un enjeu politique derrière et une expression des idées de d'Eric Larson qui était pour, en tout cas à l'époque, puisque c'était W. Bush qui était président, assez à contre-courant de la majorité. Mmh. Donc, là encore, c'était justifiable. Autant pour moi. Barack Obama, il l'a endorsé assez vite. Il s'est vraiment rangé derrière comme candidat, etc. Qu'il soutenait quasiment dès l'annonce de sa candidature. Donc là encore, il y avait un message politique intéressant. Ben Laden, je vois pas quel est le message politique derrière tout ça, quoi.
Oui, enfin même.
Je trouve ça ridicule, en fait.
Bah, en même temps, dans les comics, dans l'histoire des comics, t'avais quand même Captain America qui foutait un coup de poing dans la tronche d'Hitler, etc. Donc bon.
Autre temps, autre mœurs, quoi.
Ouais, ça reste un petit peu dans le folklore.
C'était il y a 60 ans quand même.
Oui, c'est vrai que c'était pas l'année dernière. Bon, mais voilà. Donc, oh, moi, ça m'a fait sourire hein. Quand on voit la couverture qui est assez ridicule. On sent vraiment que c'est à prendre au millième degré. Hein.
Ouais, j'espère. J'espère que c'est vraiment du millième degré et pas du premier degré, tout simple, quoi.
Oh non. Non, là, clairement, j'ai l'impression que ça va être du grand n'importe quoi, en fait, cet épisode.
Ouais, moi, j'ai peur que ce soit un peu pour dynamiter les ventes. Dynamiser plutôt, et pas dynamiter. Quoique, c'est ce qui risque de lui arriver aussi. Mais... non, mais je pense que c'est vraiment pour dynamiser les ventes.
Ça dépend quel lecteur, quel type de lecteur va lire ce truc-là, quoi.
Mais malheureusement, peut-être pas forcément le bon public. Mais
je pense que ça va être bon enfant. Bon, c'est vrai, ouais, que c'est...
Pour moi, c'est le même délire que le projet de Frank Miller dont on parlait la dernière fois.
Ah, je crois que Frank Miller est bien plus sérieux que
Eric Larson. Bien sûr, mais pour moi, ça reste du même acabit, quoi. Bon, ah, bref. On verra, hein. J'espère avoir tort et que c'est vraiment du millième degré.
Mais
et
non, c'est Savage Dragon. Pourquoi tu me parles de tort?
Ouf.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, donnez-nous votre avis, d'ailleurs, ce que vous pensez de ce comics et de cette annonce, un petit peu marrante, ou pas.
Ou pas.
Voilà. Et alors, on passe à autre chose, du coup.
Oui, on va aller chez Marvel.
Oui.
Marvel, je vais commencer par une petite news sur JMS qui aurait enfin rendu le dernier script de The 12. Ça y est.
Ah d'accord, ça y est. Bah dis donc, il aura fallu du temps. Oui, alors The 12, rappelons que c'est sorti même en français d'ailleurs, les 6 premiers numéros, il me semble, et qu'on attend toujours la suite.
Ouais. Il y en a 7 ou 8 de mémoire qui ont été publiés aux États-Unis, donc on en a 2 inédits pour le moment en France en tout cas. Reste à savoir quand ils seront dessinés, quand ils seront publiés, s'ils le sont un jour, bien évidemment, ça c'est pas gagné, étant donné que le dessinateur est très occupé à faire des storyboards pour le cinéma. Je le comprends, ça paye plus. Maintenant, j'estime que quand on s'est engagé dans un projet, le minimum c'est d'aller jusqu'au bout.
Oui, mais alors attention, il y avait Chris Weston, hein, je pense, c'est au dessin, c'est ça?
Oui, c'est ça, Chris Weston. Oui.
Chris Weston qui aussi prenait son temps, on va dire, je crois.
Oui, il prenait son temps, puis il s'est tourné vers le cinéma et vers les storyboards, donc voilà. JMS avait une part de responsabilité, mais Chris Weston en a une grosse lui aussi.
En a une grosse lui aussi?
Oui, une grosse part de responsabilité.
Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'une humeur chafouin aujourd'hui. Donc, JMS, faut dire qu'aussi, il a eu quelques petites déconvenues dans le monde des comics récemment, donc voilà, ça l'a poussé peut-être un petit peu plus vers la sortie et vers le monde du cinéma.
Non, je parlais de Chris Weston hein, qui s'est tourné vers le monde du cinéma, c'est pas JMS.
Ah bon, d'accord. Bah.
Non, JMS vient du monde du cinéma, entre autres avec Babylon 5.
J'ai entendu, en fait. D'accord.
Mais voilà, Chris Weston a fait, en fait, s'est tourné vers les storyboards pour les films, parce que ça paye beaucoup plus. Ce qui est honnêtement tout à fait compréhensible, hein. C'est ce que je disais à l'instant. Je comprends tout à fait que, quand on est dessinateur professionnel, on a envie de gagner bien sa vie. C'est normal. Maintenant, voilà, quand on s'est engagé sur un projet, pour moi, le minimum, c'est d'aller jusqu'au bout de ce projet. Surtout que c'était un projet limité en 12.
Quand on sait qu'on a prévu hein, de tenir la cadence des podcasts jusqu'au nombre fatidique de 10 000, Va falloir s'accrocher pour tenir le projet et le mener à bien.
Oui, exactement. D'ailleurs, nous allons passer à 8 par semaine, histoire
Oui,
d'aller accélérer.
au moins par jour peut-être, je pense. Parce que
Ouais,
pour tenir la pour arriver au nombre final, je pense que il faut bien ça.
ils seront sans montage, hein, par contre, hein. Vous comprenez bien que.
Oui, puis à force sans comics, puisque ça fait difficile d'en trouver même autant.
Oh,
Voilà.
sinon, on les trouvera facilement. Pas forcément des nouveautés, mais on les trouvera.
D'accord, on va faire ça comme ça. En attendant, une autre news.
Oui.
Allons-y. Alors donc un teaser, enfin deux teasers d'ailleurs pour Fear Itself, Mighty versus Worthy. Bah les Worthy, on les connaît, hein, c'est les fameux gros méchants du dieu serpent. On l'appelait comme ça. Hein. De toute façon, je pense qu'il s'appelle, il s'appelle serpent. Non, je sais plus comment il s'appelle.
Ouais, non, mais ça doit être ça. Enfin, je t'avouerai que j'ai pas voulu retenir son nom.
Oui,
Ça me
bon,
rappelle des mauvais souvenirs.
on
Mais.
va l'appeler Dieu Serpent. Bah, je vais te rappeler des mauvais souvenirs tout à l'heure.
Oui, je sais. Je sais bien,
Je
malheureusement.
vais les rappeler justement à ton bon souvenir. Alors donc les Worthy, on les connaît, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y allait avoir des Mighty. Et les Mighty, qu'est-ce que c'est, Steve?
Eh bien, ça va être les ennemis des Worthy, je pense.
Oui, les super-héros
C'est
donc.
ceux qui vont se battre. Alors, moi, la question que je me pose, c'est qui va donner des pouvoirs aux Mighty?
Eh bah,
Serait-ce
Odin?
Odin?
Odin, oui, j'en suis sûr.
Bon. En tout cas, sur cette. En fait, ils ont repris le même principe que le premier teaser, c'est-à-dire des ombres. Sauf que cette fois-ci, on les a pas deux par deux, mais on les a tous ensemble. Et bah franchement, il suffit de regarder les ombres pour deviner à peu près qui est qui. Pas de grosses difficultés. On a regardé ça 2 minutes avant d'enregistrer et on a découvert tout le monde, à l'exception peut-être d'un où on est à peu près presque sûr, mais on n'en est pas à 200% sûr, quoi. Oui, puisqu'on est deux, donc 200%.
Voilà. Donc on peut citer quelques noms ou pas?
Oui, bah oui, bah vas-y.
Spider-Man, Iron Man, Hawkeye, Wolverine, Iron Fist, Doctor Strange. Et puis alors des membres féminins.
Ouais, on a Miss Marvel, on a Spider-Woman, vraisemblablement, et Rachel Hulk, peut-être.
Ou Titania. Non, pas Titania,
Non,
comment s'appelle-t-elle?
Valkyrie.
Valkyrie.
Ouais, mais je penche peut-être pour Rachel Hulk. Quoique
Que tout court.
le haut des cheveux, je ne sais pas. On verra bien de toute façon, à moins que ce soit le bout de l'épée. C'est difficile à voir. Moi, le principal reproche à ce choix, c'est que c'est trop commun.
Oui, non, mais enfin, c'est vraiment l'event sans surprise, mais de toute façon, on en parle tout à l'heure plus en détail.
Bah là, le choix, c'est les New Avengers, quoi. Ils ont pris les New Avengers et ils les ont foutus en Mighty.
Ouais.
Une probable peut-être suite à Mighty Avengers. Bah ouais,
Pitié.
écoute, moi je vois que ça. Non, puis honnêtement, le Wolverine plein de piques, c'est quand même ridicule.
Ouais, c'est l'adamantium qui lui sort de tous les côtés.
Mais oui, mais c'est ça, quoi. C'est ça, c'est Wolverine sans All Over Again, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout les looks à la Tron qui sont assez grotesques.
Sauf pour Wolverine, qui justement est tout noir.
Voilà, bah faudra voir ce que ça donne.
Il a juste les griffes qui sont sensiblement néonées, si je peux en faire un adjectif.
Et d'ailleurs, grosse erreur, donc comme tu disais, hors enregistrement du coloriste qui a laissé les bottes de Spider-Man, donc on voit clairement de qui il s'agit.
Ouais, grosse erreur là.
Même si le doute n'était pas permis, hein, franchement.
Bon, il y a très, très peu de personnages qui se pointent dans ces poses-là. Hein. Non, mais bon, voilà, c'est un choix vraiment convenu,
C'est
quoi.
Ben Reilly!
Il est de retour. Non, non, mais c'est convenu comme choix, quoi. C'est dommage. Il aurait peut-être valu prendre des personnages un peu moins connus pour créer un peu la surprise.
Voilà.
C'est le choix de Marvel, hein. On peut rien y
Oui,
faire.
les choix de Marvel sont impénétrables, surtout en ce moment où voilà, ils nous racontent les histoires avant de sortir le comics. Enfin bon, c'est pas grave. On continue. Ah bah non, une autre news, justement, elle un peu plus étrange. En décembre, Jeff Loeb et Ed McGuinness sont de retour sur un nouveau projet. Alors on sait pas encore si ce sera une mini-série ou un ongoing, mais en tout cas, ça s'appelle quelque chose en 5 lettres, selon le teaser, Reborn.
Alors, 5 lettres, il y a 5 tirés. Après, reste à prouver que c'est vraiment 5 lettres.
Exactement. On ne sait pas si ça correspond exactement à ça, mais en tout cas, donc les spéculations vont bon train. On parle peut-être d'un Bucky Reborn, d'un Storm Reborn, d'un
Un
Hulk.
câble, j'ai vu
Non.
passer un câble Reborn aussi.
Ouais, exactement. Cable rentrerait aussi.
Jeff Loeb ayant déjà travaillé sur le personnage, Ed McGuinness aussi.
Ou alors pas Hulk, puisque Hulk, il n'y aurait pas assez de lettres, mais Rulk.
Non,
Encore lui.
il y aura pas assez de lettres non plus.
Ah bah si, 5, je crois,
Non, Rulk,
Hulk.
qu'il n'y a pas de H.
Ah ouais? Ah! D'accord. Bah tu fais bien de me le dire. Moi je croyais qu'ils avaient mis le H.
Non, non.
Bon, en tout cas, du H, en ce moment, ils en consomment pas mal.
Je me demandais comment t'allais essayer de t'en sortir du début de la phrase, et effectivement, bien dedans, quoi.
Voilà. Et on passe à autre chose. Bon, bah, alors, spéculez, hein, allez-y, sur les commentaires, etc. Donnez-nous votre avis.
Je dirais même plus spéculoos, quoi.
Oh
Voilà, elle était facile. Je suis super crevé. Mais disons qu'il y a
putain,
aussi une private joke dessous, hein.
que c'était quand même agréable.
Non, mais
Je crois que c'est tout.
il y a une grosse private joke dessous, hein. On
Oui,
n'expliquera pas
mais
ça
il y a
en
toujours des
vidéo.
grosses private jokes dessous, malheureusement. Donc, bah, c'est niveau news, je pense qu'on a
Oui,
fait le
non, c'est
tour.
tout. C'est vraiment très calme en ce moment. Je pense qu'ils se réservent les grosses annonces pour la San Diego Comic-Con, qui aura lieu d'ici une quinzaine de jours à peu près.
Ouais, Marvel quelques jours. D'ici quelques jours, Marvel quelques jours.
Ouais, d'accord. Ok, putain, on est en forme de la vanne, hein, je
Et
crois.
oui, là, il faut. L'ambiance est astronomique ce soir. Ouais.
Je ne comprends pas tous les mots, mais ce n'est pas grave. On va continuer, on va passer à la double review de la semaine. Sans surprise, la double review de la semaine, c'est
C'est
Flashpoint.
Barbie et son cheval numéro 5. C'est bien sûr, bah oui, Flashpoint.
Flashpoint numéro 3 sur 5. Au scénario, on retrouve Jeff Jones. Au dessin, Andy Kubert. À l'ancrage, Sandra Hope. Et
Je vais pas faire la
on
blague.
est arrivé à la moitié de cet event. Et c'est vrai que ça n'avance pas des masses, quand même.
Ah bah, alors bon. Résumons. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal.
Ah non, c'est bien. C'est très bien. C'est très très bien. Par contre, c'est vrai que je trouve que ça n'avance pas beaucoup. Et je me dis, il reste deux parties pour boucler le tout. J'ai peur d'un bâclage, en fait.
Ouais,
C'est
bon.
ça qui me gêne. Alors, au niveau du résumé, Cyborg est rejeté par le président des États-Unis. Puisque c'était lui qui était un petit peu le chien du président des États-Unis à essayer de rassembler tous les héros, etc. Vu que ça n'a pas forcément bien marché, le président des États-Unis décide de le rejeter et de passer à sa solution à lui pour arrêter les Atlantes et les Amazones. De son côté, Flash, qui était brûlé au 88e degré, à peu
Ouais,
près.
enfin, il était en steak tartare, quoi.
Ouais, franchement, après s'être fait éclater par un éclair, en fait, tout simplement pour essayer de retrouver ses pouvoirs, en fait, de recréer
L'accident,
Voilà,
l'incident.
l'incident qui lui a donné ses pouvoirs. Eh bien, ça n'a pas marché, il s'est fait brûler, mais il demande à Batman de l'aider à recommencer.
Voilà. Et même Thomas Wayne, donc le Batman assez hardcore de cet univers, ne veut pas.
Ouais, il va le céder quand même relativement rapidement. Et bien sûr, bon, on va pas. Enfin, c'est pas vraiment un spoil. Enfin,
Bah,
c'est
ça se voit
bon,
sur la
voilà.
couverture, en fait, hein, de toute façon.
Ça marche. Hein, cette fois-ci, il récupère ses pouvoirs. Et d'ailleurs, il sauve Batman d'une mort totalement atroce. Une mort à la Exorciste. Pour ceux qui
Ouais,
ont vu le film.
si on veut, oui, t'as raison.
Et donc, Barry va tenter de former une nouvelle JLA. Une JLA de ce monde-là. Avec les gens qui existent encore et ceux qui ont encore des pouvoirs, afin de réparer le monde et de retourner à son monde d'origine.
C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la couverture, au fait, ils sont trois, hein, grosso modo, et ils partent en quête, du fameux projet Superman.
Voilà, c'est-à-dire que Batman va aller voir Cyborg pour avoir des informations, et en échange lui dire qu'il accepte sa proposition de s'allier avec lui pour arrêter les Atlantes et les Amazones qui sont en guerre.
Voilà.
D'un autre côté, on voit un petit peu ce qui se passe avec Loïs en Angleterre, justement. Elle apprend quand aura lieu l'attaque des Atlantes sur la Grande-Bretagne, donc la nouvelle patrie des Amazones. Et puis, elle tombe sur la résistance anglaise. Et alors là, on voit clairement le rapprochement avec les gens de Wildstorm, puisque on a notamment un personnage emblématique de Wildstorm qui se trouve dans l'équipe.
Ouais. Et on sent l'arrivée prochaine du grand chamboulement, du grand relaunch DC, avec donc des personnages Wildstorm, notamment.
Mais tu vois, moi, ce qui me fait peur, c'est que on est à la moitié, on sait qu'il y a le relaunch qui arrive, et j'ai peur qu'en fait, que rien de Flashpoint ne soit résolu, et que le relaunch partira comme ça.
Moi, j'ai, enfin, franchement, tant que c'est aussi bon, les histoires, parce que honnêtement, ce numéro-là m'a fait grand plaisir à la lecture. J'ai trouvé ça agréable, pour moi c'est vraiment du bon comics de super-héros. Tant que ça marche comme ça, pour moi ça va, quoi, y a pas de problème.
Ah mais c'est très bon, hein, c'est très bon. Petit point négatif aussi, enfin c'est vraiment léger. Hein. Après, moi ça me dérange pas plus que ça, je sais qu'il y a certains lecteurs que ça va déranger. Jeff Jones continue dans son style assez dark. Hein. On sent qu'il a quand même vraiment amorcé un virage avec Blackest Night et c'est quand même très sombre Flashpoint.
Ouais, d'un autre côté, la fin est assez remplie d'espoir. Et j'ai bien aimé quand même tout ce passage justement, donc sur le projet Superman, où on apprend qu'est-ce qui s'est passé exactement.
tu trouves que la fin est remplie d'espoir? Moi, je trouve pas.
Ah,
Au contraire.
si, bon, de toute façon, on se doute que ça va vite se résoudre, cette enfin la fin du numéro 3 comparée à la fin du 2,
Ah oui,
franchement.
bien sûr. Oh, quoique, ils se retrouvent dans une situation tout aussi.
On se doute bien qu'ils vont pas avoir du mal à s'en échapper, à mon avis.
On verra bien, l'avenir nous dira. Je pense que Jeff Jones peut encore nous surprendre. Mais voilà, moi, pour moi, c'est vraiment ce point négatif de Flashpoint, c'est que j'ai peur qu'on arrive à aucune résolution au final. Qu'on laisse le truc en suspens et qu'on nous annonce un crossover peut-être d'ici 6 mois, 1 an, pour résoudre tout ça et revenir à la réalité normale si jamais le relaunch s'avérait ne pas marcher, par exemple.
Bah, moi j'ai une autre théorie, hein. Je pense que Flashpoint va connaître une véritable conclusion et que le relaunch, il y aura simplement quelques éléments à mon avis de Flashpoint qu'on retrouvera dans le relaunch, mais pas tant que ça. Et le relaunch sera dans l'univers qu'on connaît d'avant, quoi, enfin l'univers de d'habitude, à mon
D'accord,
avis.
bah peut-être, ouais. Moi, en tout cas, j'ai hâte d'arriver quand même à la fin pour voir justement où ça va.
Pour moi, Flashpoint, c'est juste une parenthèse, un petit peu comme l'ère d'Apocalypse.
Mais oui, au début, c'est ce que je pensais. Et puis avec ce relaunch, avec le fait que ça n'avance pas trop, parce que l'ère d'Apocalypse, quand même, ça a avancé. C'était qu'en 4 mois, mais ça a avancé pas mal.
Ouais, enfin en même temps, on ne sait pas ce que Geoff Jones a prévu. Peut-être que ça peut bien bouger dans les deux prochaines parties. Enfin voilà, moi ça me. J'ai l'impression que ça bougeait quand même plus d'ailleurs dans cet épisode que dans les deux premiers, hein. Il y a quand même un peu plus d'action.
Ah bah oui, bien sûr, oui, là je suis entièrement d'accord avec toi.
C'est plus long à lire aussi, hein, faut dire. Parce que le dernier numéro était quand même assez rapide à la lecture. Là, fallait plus de temps. Non, enfin bon, moi tant que c'est de ce niveau, je suis content et j'ai hâte de lire la suite.
Bah oui, moi aussi, j'ai quand même hâte de lire la suite et notamment de la fin. Donc voilà, c'est un bon comics, ça marche bien. Pourquoi s'en priver, quoi? Si on suit l'event, pourquoi s'en priver? Et après tout, le truc, même si certains tie-in aide à la lecture, les otaïs ne sont absolument pas indispensables, donc on peut vraiment se cantonner à lire simplement Flashpoint pour avoir une histoire relativement sympathique, et puis voilà, se préparer à ce futur chamboulement qui arrivera en septembre.
Enfin, quoi qu'il en soit, donc pour moi, c'est un grand bail quand même.
Mais pour moi, c'est un bail, pas un grand bail, mais c'est un bail.
Je dirais que c'est le comics le meilleur comics pour moi de la semaine.
D'accord.
Ah, il y a quand même quelque chose de très bon aussi. D'ailleurs, je vais venir ensuite, mais
Bah, vas-y tout de suite, hein, de toute façon.
Eh bien alors, donc, première review solo, Flashpoint, on y reste. Batman, Night of Vengeance numéro 2. Alors, j'avais parlé du premier à l'époque, lors du Comics Weekly avec Sam, d'ailleurs. Qui nous avait, je crois, évoqué sa théorie,
Ouais, qui était une très très bonne théorie.
qui était une très très bonne théorie. Alors, se réalise-t-elle dans ce numéro? Je vais pas le dire, mais en tout cas, donc c'est toujours Brian Azzarello au scénario, Eduardo Risso au dessin, donc la team de 100 Bullets, qui nous livre ici une histoire super sombre, super glauque. Là, on passe vraiment au niveau supérieur, hein, par rapport à la première partie. Les choses s'accélèrent, peut-être même un peu trop, au fait, parce que on a l'impression vraiment d'arriver au bout du bout, et à mon avis, la dernière partie va être très vite expédiée, dans le sens où il n'y a plus grand-chose à en dire. J'aurais préféré, tu vois, qu'il nous fasse 5 parties au moins sur cette histoire, parce que 3, c'est vraiment trop peu, en fait. Là, on sent que Brian Azzarello avait pas le temps de développer plus son intrigue, et du coup, voilà, quoi, ça s'enchaîne d'un seul coup à toute vitesse. Alors, dans les bonnes surprises de ce numéro, on fait la connaissance d'Oracle.
D'accord.
Donc, est-elle la même Oracle que dans l'univers classique? Est-elle Barbara Gordon? Surprise. Évidemment, je vais pas le dire. Et bah, c'est surtout, au fait, le commissaire Gordon qui a le plus grand rôle. On voit assez peu Batman, au fait. Il y a quasiment pas Batman durant le numéro, mais on voit surtout Gordon qui essaye de trouver le Joker et qui essaye de délivrer donc les enfants de Dent, qui sont retenus prisonniers par le Joker.
Ce qui était le fil rouge, hein, qu'on nous avait annoncé dès le premier numéro.
Voilà. Alors, le truc assez étonnant, c'est qu'on ne sait pas d'ailleurs quand se situent exactement ces événements. Est-ce que c'est avant la rencontre de Barry et de Thomas Wayne, ou est-ce que c'est après?
Pour moi, c'était clairement avant. Comme la majorité des tie-ins, pas tous, mais la majorité des tie-ins se passe avant Flashpoint.
Bon, ça aurait effectivement plus de sens. Toujours est-il que c'est très très violent, c'est très très glauque. Mais c'est très bon, c'est très très bon. Il y a un petit peu de, c'est limite. Enfin, le Joker là, il limite aussi pourri que Nemesis. Par contre, enfin, la comparaison s'arrête là parce que Nemesis comparé à ça,
Tu vas chercher dans la référence quand même.
oui, non, c'est beaucoup moins bien quoi. C'est là, on a quand même du Azzarello, donc voilà, on est vraiment dans le niveau d'un 100 Bullets. Mais voilà quoi. Enfin, pour moi, Azzarello est fait pour écrire du Batman en plus. Donc le voir arriver à la rentrée sur, enfin en septembre sur Wonder Woman, ça me fait poser des questions. Honnêtement, s'il avait pu pondre un truc aussi bon que ça sur un titre régulier Batman,
Bah, il avait fait hein, du Batman, Azzarello. J'avais pas forcément accroché à son arc d'ailleurs.
Azzarello, il avait fait du Batman. Ah
Broken, Broken
oui.
Bad, je crois, ou Broken City, je ne sais plus.
Ouais. Bon, j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que j'en garde pas un souvenir impérissable. D'ailleurs, j'avais même oublié effectivement que c'était lui.
Moi, j'avais trouvé ça relativement pauvre, connaissant l'aura du gars et de ce qu'il est capable de nous pondre, notamment sur des choses comme 100 Bullets, entre autres.
Oui, mais alors quand on sait que, enfin, on a une manière de travailler différente quand on est sur un ongoing et quand on sait qu'on est là pour 6 numéros. Donc
Bien évidemment.
là, voilà. Donc il avait proposé un truc pour 6 numéros, mais là, en l'occurrence, pour 3 numéros, je veux dire, on a envie d'en voir carrément plus. Et
Peut-être qu'il nous fera des mini ou on va savoir si les fans réclament à DC de mettre Azzarello sur un titre Batman. DC est en recherche de reconnaissance puisque bah, c'est quand même un pari risqué ce qu'ils font de relancer tous les titres. Je pense qu'ils perdront pas trop de temps à mettre quelqu'un de la carrure d'Azzarello sur un titre Batman.
En tout cas, le final est sans concession, c'est vraiment très très bon. C'est pas pour les âmes sensibles, hein. C'est résolument une série adulte. Alors là, tu parlais de Grim and Gritty sur Flashpoint. Là, c'est carrément le niveau supérieur, enfin largement supérieur. Mais voilà, quand on voit le final, on se dit, oh putain, vite la suite, quoi. Donc pour
D'accord.
moi, c'est aussi un grand bail cette semaine.
D'accord, très bien. Bah, on va rester dans cette ambiance-là, mais avant de passer à ma review solo, puisqu'on est dans l'univers de Flashpoint, j'ai aussi lu d'autres petits trucs, donc je vais faire des reviews très express. J'ai lu World of Flashpoint numéro 2,
Ouais.
que j'ai trouvé assez sympa, j'avais bien aimé le premier. J'ai trouvé assez sympa, enfin, assez sympa, disons que c'est assez lent. On se demande où ça va, on se dit, bon, ça va être un épisode qui sert pas à grand-chose, et le final est super intéressant et donne vraiment envie d'aller vers le troisième et dernier. Donc, je dirais que c'est un check-it à tendance bail, quoi.
D'accord.
Et j'ai aussi lu le Abin Sur numéro 2,
Ouais.
qui est sorti cette semaine, que j'ai trouvé sympathique. Là encore une fois, un tie-in assez bon. Le premier était sympa, le deuxième est aussi très bon avec cette rencontre entre Sinestro et Abin Sur, comment Abin Sur est arrivé sur Terre aussi, comment il a été reconnu par le président. Pas mal de choses sympathiques. Puis, on reste dans l'univers un petit peu de Green Lantern avec Atrocitus qui donnait cette prophétie de Blackest Night. Cette fois-ci, c'est la prophétie Flashpoint qu'il révèle.
Ah
Alors,
d'accord.
quelle est-elle, hein, à voir dans le comic. Et puis un final, là encore une fois, qui est super bluffant.
Ah oui, d'accord, carrément.
Donc, je dirais que c'est là encore, c'est pas essentiel. Donc, pareil, un check-it à tendance buy. C'est sympa, ça vaut le coup de l'achat. Maintenant, si vous êtes un peu short au niveau finance, c'est quelque chose dont vous pouvez vous
Bah c'est
passer
l'été en même temps.
pour comprendre, oh là là, pour comprendre Flashpoint.
Et
Voilà.
ils vont pas être doudounes, hein.
Oui.
Voilà.
Donc, comme je disais, on va rester dans l'univers vraiment sombre et assez violent avec la sortie de Red Skull Incarnate numéro 1 sur 5. C'est scénarisé par Greg Pak. Au dessin, on retrouve Mirko Kolak. Et donc, c'est l'équivalent pour Red Skull de ce qu'était Magneto Testament.
D'accord.
C'est clairement dit par son auteur, Greg Pak, qu'il a fait la même chose. Il y a d'ailleurs une très très bonne postface qui est super intéressante à lire, où le scénariste donnera des références de bouquins à lire si on veut se plonger un petit peu plus dans l'univers, ce qu'il explique qu'il est obligé de faire des recherches vraiment poussées pour bah, arriver à resituer bien le contexte historique, de voir comment les gens étaient, les contextes politiques de l'époque. Et bah, d'ailleurs, il explique que ce genre de recherche, bah, ça laisse des traces quand même, et que notamment pour Magneto Testament, il avait fait des cauchemars pendant longtemps après avoir écrit le truc.
Ah bah attends, c'est le même qui
Oui,
c'était aussi Greg Pak?
c'était Greg Pak sur Magneto Testament.
J'avais oublié, dis donc, que c'était lui. Mais alors donc là, du coup, c'est du côté des méchants, quoi, qu'il va
Cette
voir.
fois-ci, on voit la jeunesse de Red Skull et comment il va devenir Red Skull. En tout cas, c'est ce qu'on espère. En tout cas, là,
Ah
dans
bah
cette.
oui, enfin oui et non. Enfin,
Bah.
on sait que c'est inéluctable de toute façon, mais.
Oui, est-ce que la série ira jusqu'au moment où il enfile le masque de Red Skull ou s'arrêtera-t-elle avant? Ça, on ne sait pas encore. sur Magneto Testament, on ne voyait pas Magneto devenir Magneto à la fin.
Ouais, c'est vrai.
Donc le doute est permis. Là, on assiste donc à l'enfance de Johann Schmidt, qui est un enfant qui est élevé dans un orphelinat. Il le dit très justement, puisque c'était comme ça que c'était vu à l'époque, il a tué sa mère, pas volontairement, elle est morte en couche, mais il a tué sa mère. Et donc il vit dans un orphelinat, et quand il sera plus vieux, il ira directement en prison. Le contexte politique de l'époque étant quand même assez
assez bizarre, ça
se passe en 1923 hein, donc
je ne savais pas donc quand tu tuais ta mère à l'accouchement, tu étais coupable.
Bah apparemment
ça c'est extraordinaire ça.
Ouais.
Quelle belle époque.
Ouais, magnifique. Il faisait bon vivre à cette époque-là.
Ouais.
Donc bien sûr ça se passe en Allemagne hein, en 1923.
Ouais.
Un petit peu après la Première Guerre mondiale, le Troisième Reich n'est pas encore arrivé au pouvoir, il commence à y avoir des putschs, le nazisme s'organise, et donc dans ce contexte politique, Johann Schmidt donc, est dans un orphelinat avec un directeur d'orphelinat qui est un nazi par excellence, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les juifs, il n'aime pas les socialistes, il n'aime pas les communistes, enfin en gros il n'aime personne. Quoi.
D'accord.
Mmh. Voilà, et c'est un mec super violent, et Johann Schmidt est... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un bon garçon qui n'hésite pas à couvrir ses camarades, à se prendre des raclées à leur place. Et il y a un de ses camarades qui sauve un petit chiot. Et ça va lui valoir une belle correction d'avoir sauvé ce petit chiot et d'avoir essayé de voler un peu de nourriture pour nourrir ce petit chiot affamé, quoi.
Mmh. Bon, et est-ce que l'auteur ne tombe pas trop quand même dans le larmoyant et le...
Absolument pas.
Ouais.
Absolument pas. Non, c'est toujours très très bien écrit, comme Magneto Testament. Hein, de toute façon, ne tombez pas dans l'armoyant.
Oui, non, mais pareil. Par contre, là, avec Crâne Rouge, on peut se dire, mais pourquoi finalement, enfin Red Skull, pourquoi finalement n'est-il pas tout simplement méchant à la base, quoi? Pourquoi faut-il qu'il y ait un basculement?
On commence à voir les ouais. prémices de ce basculement dans cet épisode. Il décide de s'enfuir de l'orphelinat. Il tombe au moment où il y avait un putsch qui se préparait, un putsch des nazis pour prendre le contrôle de l'État. Mm-hmm. Et il profite de la confusion puisque ça se passe mal. Je vous laisserai lire le comic pour voir pourquoi ça se passe mal. Et il arrive à s'enfuir, monte avec le gars qui s'occupe de la fourrière à chiens et qui tue les chiens errants justement, et s'enfuit avec lui. Et la première chose qu'il demande à ce mec, c'est de lui montrer comment il tue les chiens. Et là, on assiste à une scène qui est d'une cruauté absolue, où on voit des massacres de chiens.
Mmh.
Et c'est, franchement, c'est super glauque. Mais, enfin, c'est tout à fait dans le contexte, c'est pas glauque pour faire glauque, quoi. C'est glauque parce que c'était la réalité de l'époque. Et on voit, commence à voir le basculement, de Johann Schmidt vers le côté maléfique.
D'accord.
C'est vraiment bien écrit, c'est super intéressant. Enfin, voilà.
C'est une série qu'on avait annoncée à l'époque dans les news. À l'époque, on n'était pas spécialement, chaud, hein, pour lire ça. Finalement,
on se disait,
ça a l'air
encore
d'être très
une
bien,
fois,
quoi.
Ouais, c'est, franchement, en tout cas, c'est pas mal. Pour moi, c'est si vous avez aimé Magneto Testament, c'est un bail. Si vous aimez ce genre de choses qui sont pas du comic de super-héros, qui sont plus du comic historique, en quelque sorte, même s'il y a des éléments de l'univers Marvel, c'est
oui,
franchement...
Oui, comme le Red Skull, qui n'a pas existé, rappelons-le quand même.
Oui, ah oui bien sûr. Non mais voilà, enfin, je veux dire, c'est un comic à la limite entre l'historique et le fictionnel, bien sûr, puisque ça se passe dans l'univers Marvel. Mm-hmm. C'est franchement bien écrit. Comme je dis, si vous avez aimé Magneto Testament, jetez-vous dessus, vous aimerez cette mini, quoi. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. Maintenant, si vous n'avez pas aimé Magneto Testament, si vous en avez rien à foutre des origines de Red Skull, parce que c'est un personnage que vous ne pouvez pas saquer, ou que vous en avez absolument rien à foutre, ce qui peut aussi être le cas, bah, je pense que vous pouvez passer votre chemin. C'est une bonne histoire, mais ça mérite peut-être pas l'achat à ce moment-là, quoi. Donc non, très intéressant, et notamment cette postface aussi, qui est assez intéressante, qui donne beaucoup de références littéraires pour pouvoir... situé là, sur la montée du nazisme, sur les tueurs en série, ce genre de choses, les bouquins qui l'ont aidé justement à se mettre dans l'état d'esprit pour écrire et à appréhender les faits pour cette mini-série.
Des bouquins à lire pour être de bonne humeur.
Ouais,
dès le matin.
Non, mais ouais, c'est clair. C'est clair. Mais en tout cas,
à lire sur la plage pendant les vacances.
Ouais, histoire de passer pour un fou, quoi. Mais non, franchement, c'est franchement très très bien. Pour moi, c'est un bail. Bah, comme j'ai dit, hein, à réserver quand même un public averti, même si les scènes sont pas tellement visuelles. Voilà.
Oui, mais enfin, le fait que ce soit, entre guillemets, tiré de faits réels ou influencé par des faits historiques fait que ça peut facilement plus impressionner finalement qu'un truc totalement irréel.
Ah, puis si vous avez un animal, et notamment un chien chez vous, je vous promets que cette scène est vraiment
atroce. Ne lui donnez
atroce.
Pas ce mix, ne lui faites pas lire.
Ça fera rigoler peut-être, mais une fois que j'ai lu ce truc-là, j'ai été voir mon chien, je lui ai fait un câlin, et voilà. parce que je trouvais que cette scène était vraiment très très lourde, quoi, très 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 difficile.
Bon, il y a effectivement des gens qui doivent se marrer en nous écoutant. On va passer.
Ouais, non, mais ça fera rire certains peut-être, mais enfin voilà, lisez-le et vous comprendrez.
D'accord. On passe à la suite. Donc, on va retourner un petit peu dans cet univers avec le formidable Fear Itself numéro 4. Alors,
J'attends le lien. J'attends le lien. Maintenant, parce que tu vas retourner dans cet univers, donc je sais pas de quel univers tu parles. Est-ce que c'est l'univers glauque et sombre ou est-ce que c'est l'univers fictionnel
Non, enfin c'est le fait que ça fait très très peur, mais pour différentes
D'accord.
des raisons totalement différentes.
Okay.
Donc au scénario, Matt Fraction, enfin au scénario, c'est vite dit, Matt Fraction, au dessin, Stuart Immonen. Bon, on va peut-être commencer par ce qu'il y a de mieux, hein. Les dessins de Stuart Immonen sont pas trop mal. Même si, devant la pauvreté du scénario, j'ai envie de dire, c'est pas ça qu'on retient.
Moi, je dis que t'attaques fort.
Ouais, enfin, déjà, Thor a été banni par Odin d'Asgard. Oh, ça faisait longtemps. Oh là là, quelle surprise. Et ceux qui ont vu le film seront étonnés. Hein. Voilà. ça commence bien. Ensuite, c'est les funérailles, enfin, si on peut dire, hein, puisque c'est vite expédié aussi, les funérailles de Bucky, en petit comité.
Bucky. Oui, c'est vrai qu'il était mort, j'avais oublié.
Oui, il est mort, puisque nouveau titre avec Captain America, enfin Steve Rogers en tant que Captain America, donc forcément, plus besoin de Bucky. Voilà,
c'est la. On sait qu'il va revenir, étant donné qu'il y a ce fameux titre.
Oui, c'est d'ailleurs, ce serait logique que Jeff Loeb et Ed McGuinness s'en chargent.
Non, mais je pensais à l'autre titre de Captain America.
Ah, d'accord. D'accord, non, mais ce serait aussi une possibilité, hein. Bon, quoi qu'il en soit. Voilà, donc aux surprises, Bucky est mort, on s'y attendait pas non plus. Reformation de la nouvelle trinité Marvel avec Steve Rogers, Iron Man, Thor, qui décide d'aller casser la gueule aux Warsi. Jusque là, pas de surprise. Ouais. Les Warsi, donc, bizarrement, on voit toujours les mêmes Warsi en plus dans les titres. C'est-à-dire que ceux qu'on voit le plus, c'est Hulk, Ben Grimm et Juggernaut.
Ouais,
Juggernaut est carrément dans cette semaine et carrément dans trois titres différents.
Oui. Trois endroits différents.
À trois endroits différents, oui, dans trois
villes.
C'est
ça qui est très fort.
Exactement. Bon, voilà, donc il y a vraiment aucune surprise, si ce n'est une petite révélation à la fin sur le dieu serpent. Et encore, une révélation qui n'en est pas vraiment une, puisque c'était prévisible. Ça n'apporte pas grand-chose. C'est un personnage qui, de toute façon, est sorti de nulle part au début de l'event. Contrairement à Secret Invasion ou Siege, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien qui a amené Fear Itself. Fear Itself, c'est vraiment sorti comme d'un chapeau, comme ça.
Et puis qui, franchement, retournera sûrement au néant à la fin, et dont on n'entendra plus jamais parler.
Ouais. Comme je l'avais dit, j'ai l'impression que Marvel, avec les Warsi, a essayé de faire un truc à la Brightest Day pour DC, c'est-à-dire de donner des marteaux à certains personnages.
Ouais, à la place d'Anno.
Voilà, à la place d'Anno. Sauf que les personnages en question... On sait toujours pas pourquoi eux et pas d'autres. Je ne pense pas qu'on le saura véritablement. Pas vraiment de raison. Alors, voilà. Odin d'ailleurs. Tony Stark va à la rencontre d'Odin. Alors dans une scène totalement ridicule, il essaye d'obtenir son attention. Mais alors c'est vraiment, là pour le coup c'est vraiment ridicule. Je vais pas dire comment, parce que je laisserai la surprise quand même aux gens qui veulent se risquer à lire ça. Bon, mais...
Hey, franchement, tu sais quoi? Tu me donnes vachement envie, là.
Oh, oui, non, mais...
Ah, je vais me brouiller dessus demain.
Oui, non, mais... pour rigoler un bon coup, c'est bien.
C'était une vanne, hein.
Oui, non, mais...
Je vais éviter ça comme la peste.
Mais y a rien, quoi. Y a rien. Y a même pas de cliffhanger intéressant. Ça se termine comme ça a commencé, c'est-à-dire...
Si j'ai bien compris, Fear Itself lisait un numéro sur deux, quoi.
Oui, parce que ça n'avance pas. Et en plus, y a pas de... Je veux dire... On peut deviner exactement tout ce qui va se passer puisque il suffit de regarder les sollicitations et on comprend exactement où ça va et qu'est-ce qui va se passer. Enfin voilà, donc voilà, il y a rien d'extraordinaire. C'est rempli de clichés, de retournements de situation déjà vus 150 000 fois. Honnêtement, hein, au début de l'année, j'étais content d'entendre que Axel Alonso arrivait et remplaçait Joe Quesada. J'étais content de voir que Matt Fraction allait hériter de l'event Marvel de l'année.
On se disait ça va changer de Bendis, quoi.
Voilà. Et maintenant je regrette carrément Bendis parce que.
Ah on regrette Secret Invasion, hein.
Mais même Secret Invasion, c'était plus intéressant. En tout cas, ça commençait mieux. Après, bon, c'est vrai que la fin de Secret Invasion, c'était un peu du grand n'importe nawak. Ça a quand même débouché sur Darkrai, qui était pas mal. Bon, là, honnêtement, que ça débouche sur un truc intéressant, ça m'étonnerait. Même que ça débouche sur quoi que ce soit, puisque... Enfin, là, honnêtement...
Mais moi, je te dirais que ça débouche les éviers, quoi. Voilà.
Bah, même pas, hein, même pas. Hein. Je pense que...
Non, ça te les bouche, en fait.
Oui, ça te les bouche, parce que c'est vraiment un comics...
T'essaies de faire passer ton comics dans l'évier. Ouais, oui. C'est ça.
Faut mettre tous les tie-in aussi à Fear Itself dedans. Non, parce que j'en ai lu des tie-in à Fear Itself, et franchement, il n'y a rien de transcendant. Voilà. De ce que j'ai lu de mieux, par rapport à Fear Itself, c'était peut-être le Thunderbolt, c'est encore le Thunderbolt, c'est pas extraordinaire.
Où on avait, bien sûr, Juggernaut.
Où il y avait Juggernaut, voilà. Exactement.
Qui était aussi dans Uncanny X-Force de mémoire et dans Youth and Revolt.
Eh ben, qui était dans Uncanny X-Men, en tout cas.
Ah oui, dans Uncanny X-Men, pardon, pas dans Uncanny X-Force.
Donc, peut-être qu'il était dans Uncanny
X-Men. Non, il était dans Uncanny X-Men, c'est moi qui me trompe.
D'accord.
Uncanny X-Men, Uncanny X-Force, la bon. Confusion est rapide.
En tout cas, pour un event, c'est quand même assez scandaleux, parce que c'est totalement pas inspiré. Donc pour moi, c'est un gros pass, voilà. Il y a pas grand chose à tirer de ça.
Ben, je dirais que bah d'un côté, tant mieux pour DC, qui va pouvoir capitaliser sur son relaunch, puisque Fear Itself ne sera pas terminé en septembre. Normalement, si je calcule bien, il devrait s'arrêter en octobre. Mm-hmm. Et donc, les gens vont peut-être délaisser un petit peu les publications Marvel, parce qu'apparemment sur le net, je commence à voir les Américains qui commencent à fustiger un petit peu cette série. Et à juste titre, hein. Et donc voilà, peut-être que les gens vont se tourner vers DC.
Ce qui m'a fait un peu peur quand même, c'est de voir dans les chiffres de vente que Fear Itself, alors je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, mais était toujours devant Flashpoint.
Ouais,
malgré tout.
Mais parce que Flashpoint fait peur. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément DC. Même si DC a une ampleur beaucoup plus importante aux États-Unis, bien évidemment, par rapport à la France, mais c'est quand même la seconde maison d'édition par rapport à Marvel. Marvel est beaucoup plus connu, ne serait-ce que par son exposition avec les films. Les films DC, non, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est toujours sur les mêmes personnages.
Ouais. Bon, enfin voilà, donc franchement un gros pass. Et si je peux me permettre de faire une petite review express.
Mais je t'en prie, avec plaisir.
Voilà. Moon Knight, numéro 3. Le nouveau volume par Brian Michael Bendis. Justement, alors quand Bendis n'est pas en train de faire un gros event, etc., il fait des trucs pas mal de temps en temps, hein. Pas forcément, mais de temps en temps ça lui arrive. Et ben par exemple, Moon Knight en ce moment c'est pas mal du tout.
Une fois qu'on a compris la révélation du premier, qu'on avait.
Oui, voilà, c'est ça qu'on a. Mon Dieu, qu'on est con parfois.
Ouais, non, mais voilà, c'est le fait de lire vite aussi, et puis on n'est pas toujours au top niveau, quoi. On peut pas être.
On peut pas être top moumoute, hein, comme Steve tout le temps. Voilà, donc alors pour revenir à
Moon Knight, ça marquait tes années apparemment.
Oui, mais pour revenir à Moon Knight, alors certes, Bendis a toujours ses vieux travers, c'est décompressé, il y a des dialogues à rallonge avec des petites vannes qui reviennent 36 fois dans le même numéro, mais c'est quand même agréable à lire, et c'est surtout avec un Mark Spector totalement déjanté, vraiment un Moon Knight comme on aime, et comme on aurait aimé avoir dans Secret Avengers. Parce que dans Secret Avengers, finalement, Moon Knight a fait plus de la figuration qu'autre chose, quoi.
Comme beaucoup des Secret Avengers.
Voilà.
Ça s'est fait.
Mais oui, mais c'est bien vrai, et alors que là, il est vraiment totalement barré, et du coup, c'est vachement intéressant, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il est complètement fou? Est-ce qu'il va péter un câble? Et d'ailleurs, il y a une scène très drôle de recrutement, on va dire ça comme ça. Il fait passer un petit entretien à l'un de ses informateurs, et c'est vraiment jubilatoire comme scène. Voilà.
De toute façon, j'avais lu le 2, j'avais beaucoup apprécié aussi, donc nul doute que je vais lire le 3.
Voilà, donc franchement, une série à suivre. Je ne sais pas si elle va durer longtemps, malheureusement, puisque Moon Knight n'est pas le personnage le plus porteur qui soit, mais en tout cas, ça fait largement plus le coup que n'importe quel Fear Itself qui soit.
Alors, j'ai pas regardé les chiffres de vente, mais elle est quand même tenue par Bendis et Maliv.
Oui. Mais
donc c'est quand même deux gros noms, je pense que deux gros noms qui peuvent faire vendre.
C'est vrai, mais je sais pas si Scarlett, par exemple, a fonctionné.
Scarlett étant chez Icon, étant un personnage qui n'est pas connu du tout, puisque c'est un personnage uniquement pour cette série-là, c'est beaucoup plus difficile d'accrocher le lecteur.
Ouais. Mais enfin bon, Moon Knight, hein, c'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus...
Ouais, mais c'est un personnage qui existe depuis longtemps, qui a une certaine exposition, notamment récemment avec les Secret Avengers, donc les gens ont plus facilement entendu parler de Moon Knight qu'ils ont entendu parler de Scarlett.
C'est vrai.
Voilà.
Enfin, ça dépend laquelle.
Ouais.
Oui, enfin bon, bref.
Ouais.
Vas-y, fais-nous une review.
Après le dessine-moi un mouton, fais-moi une review.
Voilà.
Donc, la dernière review solo de la semaine, ce sera le Jonah Hex numéro 69. J'ai pris ce numéro tout simplement parce qu'il est dessiné par Jeff Lemire que j'aime beaucoup.
Ah oui, puis en plus, Jonah Hex, c'est pas mauvais.
Oui, c'est pas mauvais, mais
On
c'est vrai
avait
que
parlé.
je le suis pas en single, Jonah Hex. Là, je l'ai pris puisque Jeff Lemire, et j'avais pas envie d'attendre. Donc c'est toujours Justin Gray, Jimmy Palmiotti au scénario, donc gage de qualité, hein, c'est eux qui tiennent la série depuis le départ. Donc cette fois-ci, le guest, c'est Jeff Lemire, comme je disais, au dessin ainsi qu'à l'ancrage. Et c'est un épisode, alors je vais spoiler légèrement, mais en même temps, c'est dans la sollicitation. Donc c'est pas réellement un spoil, quoi. Enfin, sauf si vous avez pas lu les sollicitations.
Oui, t'allais dire que John Hex était un cow-boy.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un cow-boy avec le visage brûlé.
Oh putain, tu m'as spoilé toute la série, je la lirai pas.
Donc, on a une bande de truands qui vont s'allier pour aller dessouder un vieil homme qui apparemment aurait trouvé le pactole dans une mine. Donc, ils le suivent jusqu'à trouver cette mine. Et
Ça fait déjà rire, tu vois le pitch.
John Hex les a entendus parler dans ce bar et donc va lui aussi les suivre. Il va arriver un petit peu après et va se rendre compte que les quatre truands sont morts et le vieil homme a une balle dans le vide et est en train d'agoniser.
Ah tiens, d'accord.
Voilà. Et Jonah Hex arrive sur place. Le vieil homme lui dit, bah vas-y, finis le travail, t'es là pour me piquer ma thune. Et pas du tout. Jonah Hex est juste là pour le voir mourir, car en fait, cet homme, c'est son père.
Ah d'accord.
Celui qui l'avait lâchement abandonné aux Indiens à
D'accord,
l'époque,
d'accord.
quoi.
Mais là, tu viens quand même de balancer le spoiler de
Oui, non mais
l'histoire.
c'est dit dans les sollicitations
Ah d'accord.
que Jonah Hex rencontre son père.
Ah d'accord.
Voilà. Donc, le père va-t-il mourir ou non? Ça, je vous laisserai la surprise dans le numéro. En tout cas, va s'engager entre les deux un dialogue enfin, magnifique à souhait, quoi. C'est bourré de répliques et de brimades l'un envers l'autre. Jonah Hex étant égal à lui-même, le père de Jonah Hex étant égal à ce qu'on connaît, c'est-à-dire un pourri qui a lâchement abandonné son fils. Il donne certaines de ses raisons. Sont-elles vraies, sont-elles pas vraies? Est-il juste de s'en sortir ou non? Je vous laisserai découvrir tout ça. C'est mis en image donc par Jeff Lemire, à qui le style correspond vachement bien. Une discussion comme ça correspond vachement bien. Sont très très particuliers, remplis d'émotions. Le personnage du père ressemble un petit peu quand même à certains personnages qu'on a pu voir passer dans les autres travaux de Jeff Lemire. Ça, c'est peut-être un petit souci, mais bon, on oublie vite et on se laisse porter. C'est poétique, mais en même temps, c'est une poésie un peu dark, quoi. C'est une poésie de mauvais goût, on va dire. La confrontation entre les deux est juste magnifique. La fin est légèrement surprenante. Et puis voilà, enfin, pour moi, c'est un gros bail. C'est un gros bail parce que c'est un très bon épisode de Jonah Hex déjà. Et puis parce que si on est fan de Jeff Lemire, c'est un truc à avoir.
D'accord. Et par contre, c'est un one shot.
Ah oui, c'est une histoire en un épisode. D'ailleurs, le prochain épisode, le numéro 70, fera sûrement plaisir à Sam, puisqu'il est dessiné par Ryan Sook, qui est un de ses dessinateurs favoris.
Et qui, comme lui, met le souk partout où il passe.
En tout cas, Jonah Hex est de circonstance, vu que cette nuit à Marseille, puisqu'on enregistre vendredi soir, enfin donc la nuit précédente, à Marseille, il y a eu une attaque de train façon diligence.
Oui, oui, oui.
Ce
Je
qui est
voyais pas où
assez.
tu voulais en venir, oui, d'accord.
Ce qui est totalement fou, je trouve, mais bon, après tout, je me suis dit, Jonah Hex est plus que de circonstance cette fois-ci.
Oui, mais c'était Sam, au fait.
Avec Comic City, on lit les trucs à l'actualité, quoi. Tu remarqueras.
Ah bah oui, bah toujours. On avait parlé de l'actu, souviens-toi, l'autre fois déjà.
Oui, et puis pas que l'autre fois encore avant.
Oui, et puis l'autre fois d'avant encore, rappelle-toi. Et puis l'autre fois encore. Mais enfin bref. On est à la pointe de l'actu, c'est formidable, c'est beau, et on a terminé en plus.
Oui, c'est la fin de ce numéro.
Oui, malheureusement, c'est pas la fin de tout, mais c'est la fin du numéro, simplement.
Moi, je vais aller dormir, hein, maintenant. Je suis complètement éclaté. Et bah, on se retrouve, comme d'habitude, sur les commentaires, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez retrouver les derniers épisodes sur iTunes, les plus anciens sur le site, bien sûr. Une petite
Le
recherche, vous trouverez.
site qui va changer.
Oui, prochainement,
Précise-le.
un petit retard dû à des imprévus de la vie de tous les jours, hein, notamment un boulot qui prend un peu plus de temps que prévu. Mais on espère avoir finalisé la nouvelle version du site pour fin juillet, grand maximum.
D'accord. Et en attendant, vous pouvez nous envoyer des messages à ce propos, si vous avez des recommandations, voilà, des choses que vous aimeriez voir sur le site Comic City.
N'hésitez pas, l'adresse c'est podcast@comiccity.fr Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer aussi un mail pour nous poser des questions, ce genre de choses. On le lira à l'antenne et on y répondra du mieux que l'on peut.
Tout à fait.
Vois-tu autre chose à rajouter à part le mot de la fin?
Le sempiternel mot de la fin. Ce sera plus d'ailleurs la réplique de la fin. C'est un grand philosophe français qui a dit ça.
Je m'attends au pire.
Ouais, bah c'est au fait c'est en rapport à la Comic-Con, j'avais cette réplique en tête durant tous les 4 jours de salon. Et donc je vais en faire profiter tous nos auditeurs qui se rueront sur le clip musical qui existe. Alors en fait, l'explication c'est tout simple, on est allé manger un soir chez Jean Lo. Et chez Jean Lo, bah, c'est Disneyland, hein. Jean Lo, il faut le savoir, est né à Disney, son papa s'est un petit peu Mickey. Et donc je te cite ce grand philosophe qui a dit Docteur House, c'est pas Mickey Mouse. Voilà.
Ok.
Et je vous encourage à voir le super clip donc qui va avec. Que vous trouverez sans problème sur Internet.
Ok, bah écoute, j'irai voir ça, mais j'ai plus envie de me pendre qu'autre chose, mais j'irai voir quand même.
Non, on va voir avant, on va voir avant.
Très bien.
Voilà. On reste dans Fear Itself, hein. On reste vraiment dans le même registre.
Ah oui, dans le bas niveau donc. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comics Weekly avec les sorties donc de la semaine
Prochaine.
prochaine. Voilà, tu suis bien.
Oui.
Et puis bah d'ici là, hein, comme d'habitude, portez-vous bien et plein de bonnes choses.
Allez, Marvel là, portez-vous bien. Ciao à tous.